C'était en 45. Tandis que vous ne dites pas de bêtises, 45 en principe, la libération.
Oui, oui.
C'était
c'est
la
ça.
Libération, là, quand elle a
oui.
été.
Uh-huh.
Quand elle a été.
Oui, alors, en 45,
elle a été.
Qu'est-ce qu'on avait ?
Elle a 31, été.
41, 10. Et j'avais 14 ans, peut-être, enfin, je ne sais pas. Alors, c'était la maîtresse qui nous avait emmenés au Paya.
Mm-hmm. Vous étiez au Biala à l'école, hein, c'est ça ?
Oui, à l'école au Biala, oui, oui.
L'école du Biala.
On était à l'école au Biala.
Oui, à l'école au Biala,
mm-hmm.
là. Et puis, on avait attendu le car.
Parce
et l'époque... je crois, il n'y avait pas Fernand Reynaud aussi.
Ben si, Fernand Reynaud aussi avait été démobilisé.
Dans le car, il y avait donc Madame Audon, c'était... Yvonne Audon.
Oui, Yvonne Audon, oui, c'est
et
ça.
Et Fernand Reynaud, c'était un monsieur des Payas aussi.
Oui.
Et voilà, alors on avait chanté une chanson quand ils sont arrivés. Mais laquelle ?
J'en ai calculé depuis, mais j'ai jamais pu trouver laquelle c'était.
C'est que maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui peuvent se rappeler.
Mmh. Je ne sais même pas si Yvonne Audon, si elle est née au Paya ou...
Elle habitait là, mais je ne sais pas si elle est née là.
Je sais pas. Non, elle est née à Gare du Doubs.
Ah.
Parce que son père était un officier.
Ah.
Et il était longtemps stationné à Gap, son père, Albert. Ah. Albert Audon.
Ah oui, mais on n'a pas connu.
Mais ben, on dit qu'elle était toujours, pendant les vacances, elle était toujours, toutes ses vacances, elle était là.
Au Paya.
Au Paya, oui, dans cette maison.
Je puis affirmer que parmi les prisonnières politiques de toutes catégories et de toutes les classes sociales que nous avons connues, la grande majorité était là pour les mêmes raisons que nous. Aucun autre crime que celui de ne pas se sentir définitivement vaincu et de ne pas accepter la défaite. Aucune autre ambition, mais j'avoue qu'elle était alors inouïe, démesurée, que de pouvoir un jour vivre et travailler librement.
Discours d'Yvonne Audon à Châtillon-en-Diois en 1945.
Qu'est-ce qui te relie, toi, personnellement, à cette histoire et à cette femme ?
Là, je dirais, donc, il y a deux sources pour moi. Hein. C'est d'un côté, donc, ma propre histoire. J'ai grandi en Allemagne et j'ai vécu aussi une bonne partie de ma vie d'adulte en Allemagne. Donc je suis dans cette génération, pas tout de suite après-guerre, mais quand même pas trop loin après la guerre. Et la question du nazisme nous a beaucoup occupés. J'avais un père qui était encore nazi convaincu. Hein, et donc là, il y avait un schisme familial. Depuis mes 14 ans, j'ai évolué vers le contraire. Et bon, ça a donné donc quelques années de guerre civile familiale. Et j'ai fait aussi un travail universitaire sur un groupe de jeunes résistants à Cologne qui s'appelle les Edelweisspiraten, qui était longtemps pas reconnu. Donc cette question de reconnaissance, je veux dire, donc ça travaille depuis très longtemps en moi. Et lorsque j'ai aménagé ici, j'ai su que bon, il y avait une résistante qui était originaire d'ici. J'ai essayé déjà d'avoir quelques informations sur elle. Et là, j'étais vraiment très déconcertée par le fait qu'il y avait très peu de choses sur elle comme information accessible. Elle est une femme très reconnue dans le monde assez restreint de la documentation et donc les bibliothécaires. Mais bon, c'est un monde très restreint. Il y a très peu de ponts vers le grand public.
Qu'est-ce qu'il a le plus marqué dans ce que Gudrun a raconté ce matin sur Yvonne Audon ? Ça peut être Yvonne Audon elle-même, ça peut être le contexte historique, ça peut être un détail, ça peut être un détail ou quelque chose que Yvonne Audon nous a montré, que Boudreau nous a montré. Qui veut commencer ? Est-ce que quelqu'un veut commencer à partager ce qu'il a écrit dans son cahier d'écrivain ?
Ce qu'il a écrit ou ce qu'il a dessiné ?
Moi, j'ai voulu dessiner.
Yvonne Audon. Salut tout le monde. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est grâce à elle, oui, à Yvonne Audon, qu'on a des livres aujourd'hui. Et je la remercie du plus profond de mon cœur. Elle restera gravée dans notre mémoire à tout jamais. Oh, et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'elle est allée au Paya et elle a visité Londres, l'Angleterre et Paris, la ville de l'amour. Et elle est devenue bibliothécaire en gagnant une bourse à l'école.
C'était une femme qui était une femme engagée. Et très jeune, elle a pris la décision de devenir bibliothécaire. Déjà, ce qui était inhabituel pour l'époque, c'est une femme de bonne famille, donc à cette époque, ça n'a pas forcément une évidence de faire des études, de travailler. Et elle s'est tout de suite orientée vers donc une formation en liaison avec l'éducation populaire. Pour elle, et ça, pendant toute sa vie, c'était une chose. Être bibliothécaire, documentaliste et s'engager pour la lecture publique, pour l'enseignement populaire, c'était, ça allait de soi. Et donc c'était donc déjà jeune, une femme indépendante qui est devenue ensuite une référence dans son métier, lorsqu'elle était employée au musée du Trocadéro au départ et au musée de l'Homme après. Ensuite, donc, son rôle dans la résistance aussi, ça se comprend vraiment par son engagement pour une sorte d'humanisme. Alors, selon mes recherches, elle n'était pas engagée politiquement directement, donc explicitement, comme beaucoup d'autres dans son entourage, parce que c'était à la grande époque du Front populaire. Mais ce qu'elle prônait, en tant que bibliothécaire de la bibliothèque du Musée de l'Homme, ça correspondait mais exactement aux idéaux du Front populaire. Donc une éducation donc pour les grandes masses, accès au savoir pour les grandes masses. Et c'est comme ça qu'elle avait aussi installé sa bibliothèque. C'était pas seulement un lieu pour la grande recherche, c'était aussi un lieu agréable, avec des vastes salles de lecture pour le grand public, pour les étudiants, mais même au-delà. Tout le monde avait accès à ça, ce qui n'était absolument pas la norme à l'époque. Ensuite, au moment de l'occupation, elle n'a pas lâché ses livres, hein. Elle a défendu ses livres, elle s'est même installée au musée. Et c'est elle qui était donc la première à établir donc avec surtout une autre femme une filière d'aide aux évadés des prisons et à collecter des informations qu'elle a distribuées, des informations qu'elle avait surtout de la part des amis de l'ambassade américaine.
Nous faisions à ce moment-là le dépouillement des journaux.
Yvonne Audon, en 1964.
Nous étions au courant des fausses nouvelles si bien propagées par les nazis. Et surtout, nous étions absolument terrifiés par les théories nazies, tellement contraires à tout ce que les ethnologues croient. Et en somme, c'était plutôt une question de foi pour nous qu'une question de résistance militaire qui, à ce moment-là, était absolument hors de question. Donc, notre première activité a été une activité de contre-propagande, d'antinazisme, qui s'est manifestée par la fabrication de tracts. Ensuite, la création de contacts directs avec l'Angleterre, afin surtout de transmettre à qui de droit les renseignements nécessaires à la défense de la France libre. Ensuite, le transport de volontaires et d'évadés dans le but de reprendre la lutte. L'organisation éventuelle de groupes de combat en France avec dépôt d'armes, chefs, etc. Une des premières choses que nous avons faites, c'est de créer ce journal Résistance. Et le nom de Résistance lui a du reste été donné au Musée de l'Homme avec Wilde, Levitsky et moi-même.
Yvonne Audon était aussi un élément moteur pour le journal qu'ils ont créé, qui s'appelait Résistance. Et là, c'est son passé protestant qui a joué un rôle. Donc, ça fait référence à Marie Durand, qui, au moment des persécutions contre les protestants, était enfermée dans la tour de Aigues-Mortes pendant 38 ans. Et elle a gravé, donc, avec, je crois, ses mains, avec très peu de moyens, le mot « résister » dans le mur de sa prison.
Yvonne Audon était devenue bibliothécaire. Elle avait sa propre bibliothèque, mais quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, plein de personnes se sont réfugiées en Angleterre. Elle voulait rester dans sa bibliothèque, mais les Allemands l'ont arrêtée. Quand elle était en prison, elle pliait un tissu et le mettait dans sa jupe pour communiquer avec sa famille.
On est tout au début de la résistance. Et donc là, il y a deux hommes qui jouent un grand rôle aussi. Hein. C'est Boris Wilde, qui est souvent considéré comme le chef de file. Un homme brillant qui avait une vision même déjà nationale de la résistance, quasiment en même temps que De Gaulle, mais par donc le biais de la résistance civile. Ils ne se connaissaient pas. Hein. Et donc à Londres, on était à cette époque-là très mal informés sur ce qui se passe en France même. Hein. Donc le deuxième homme, c'était Anatole Levitsky. Donc c'était l'ami de Yvonne Audon, donc son compagnon avec lequel elle habitait. Et les deux ont été arrêtés les premiers. Et ça en février 1941. Donc, ils ont commencé en juin, juillet 40, mais tout de suite avec l'occupation. Ils ont été, donc les deux ont été arrêtés en février 41. Les autres, Boris Wilde et d'autres, quelques mois après, en août. Et d'autres encore un petit peu après. Et ils étaient 10 à être condamnés à mort.
Le procès a duré 3 mois à Fresnes, mais enfin l'instruction avait duré à peu près une année, n'est-ce pas? Le procès s'est tenu donc à Fresnes, le jugement le 17 février 1942. Il y a eu 10 condamnations à mort, 7 exécutions. Parmi notre groupe, nous étions 3. Sylvette Leleu, Alice Simonet et moi, non, et Agnès Imbert également, qui était condamnée à 2 ans, et les 3 autres à mort.
Vous étiez condamnée à mort?
Ah oui. Ceux qui ont continué et se sont fait arrêter, Germaine Tillon en août 1942, Jacqueline Bordelais à peu près de nouveau à la même époque, le colonel Aouette, Maître Séjournant beaucoup plus tard et dans une autre affaire, Louis-Martin Chauffier également pour un autre mouvement de résistance, et un très petit nombre a continué jusqu'à la libération. Lors de notre dernière entrevue à la prison de Fresnes, 3 jours avant l'exécution de mes camarades, Wilde et Levitsky pensaient, et nous avions déjà l'impression qu'il n'y aurait pas d'exécution de femmes, c'était la grande époque de la collaboration, cela pouvait faire tort à ces idées de la Gestapo à ce moment-là. Et ils nous ont dit, il faut que certains d'entre vous reviennent, parce que notre travail ne sera pas fini, il faut que quelqu'un le continue. Et c'est peut-être bien pour ça que nous sommes revenus aussi.
Les 3 femmes ont échappé à l'exécution. Donc leur peine a été commuée en déportation. Mais les 7 hommes, donc dont Anatole Levitsky, Boris Vidé et d'autres ont été exécutés. Donc c'était tout au début de la résistance. Et déjà, donc, elle a fait donc, plusieurs prisons donc, avant que donc, le procès aboutisse. Donc, après, elle était déportée en Allemagne. Elle était à Ravensbrück, surtout, donc le grand camp de concentration des femmes. Et les derniers mois, avant sa libération, elle était à Mauthausen.
Croyez-vous qu'après des expériences semblables, nous ne savons pas, mieux encore qu'en 1940, pourquoi nous avons agi comme nous l'avons fait et pourquoi nous avons risqué notre vie? Aucune d'entre nous ne l'a jamais regretté. Nous aurions seulement souhaité pouvoir tout recommencer à la lumière de notre expérience et de celle des autres acquises en prison. Parce que la plupart d'entre nous n'étaient pas des spécialistes, surtout au début, en 40, alors qu'il fallait marcher les premiers. J'ai dit qu'il fallait marcher, cela ne signifie nullement, encore une fois, que tout le monde ait dû marcher. Mais ceux qui, ayant les possibilités d'agir et qui, pouvant d'une manière ou de l'autre, en connaissance de cause, aider leur pays, ne l'ont pas fait, ceux-là ont été des lâches et quelquefois des criminels.
Assez tôt après la guerre, elle a repris son travail au Musée de l'Homme et s'est beaucoup engagée pour bibliothèques ambulantes dans le Diois et dans le Vercors, parce qu'elle considérait que donc, la reconstruction intellectuelle serait au moins aussi importante que la reconstruction matérielle. Et elle a eu beaucoup de missions pour l'UNESCO après, où elle était vraiment un élément moteur, particulièrement pour les pays d'Afrique qui ont eu leur indépendance et qui avaient beaucoup de mal à construire donc leur propre bibliothèque, leur propre musée aussi. Donc elle est intervenue aussi en tant que muséographe en quelque sorte, particulièrement au Nigeria.
Et comme d'habitude, c'est un endroit qui saute pas tout de suite aux yeux. Et tu disais qu'elle avait choisi.
Oui. Elle a dit expressément de vouloir être enterrée ici. Donc le cimetière se trouve vraiment entre les cèdres. Donc il y a quelques tombes très simples. Jean Audan, Fernande, Audan, Madeleine, Audan. Et voilà, Yvonne Audan. Donc avec les dates de sa vie, 1902 à 1982, avec la croix de Huguenot.
Alors on voit certains cimetières comme ça sont entourés de murets, ou celui-là il est vraiment tout ouvert.
Oui, ça c'est tout particulier, hein, parce que il y en a beaucoup qui se trouvent au milieu des champs, et pas pour ne pas endommager les lieux, je pense. C'est pour ça que on les a entourés avec un grillage ou autre chose. Ici, on est un petit peu en hauteur par rapport aux vignes, donc c'est pas nécessaire. Et c'est contribue vraiment à la beauté du site, hein, que c'est un lieu de liberté.
Avec Madame Latil et Madame Nicolas Augalland, Gudrun Matz, Nadine Alibert, Lucie Chaumont et les élèves de la classe d'Isabelle Chafoy à Minglon. Le chant « Les ailes de l'espérance » est interprété par Kate Fletcher et Plie Lorenz. Réalisation Caroline Fontana. Cette capsule sonore a été réalisée dans le cadre de la recherche « Action matrimoine en Diois » qui a pour ambition de mettre en lumière l'œuvre et l'héritage, souvent invisibilisés des femmes. Le matrimoine et le patrimoine constituent à part égale notre culture commune, dans une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes.
puisqu'Alexis l'on me condamne et qu'avec vous je viens souffrir. Ah, dites-moi comme sereine, mais ce que voyez-vous venir? D'abord la neige qui
Vous pouvez retrouver les autres capsules sonores sur le site matrimoine-en-diwa.fr.